Attendons le sondage de demain matin. C'est ce qu'a déclaré M. Claude Guéant, le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, après que celui-ci ait paradé sur les Champs-Élysées cet après-midi devant quelques touristes japonais quelque peu surpris. Dans le plus simple appareil, seulement affublé d'une plume plantée à l'endroit que la morale m'interdit de nommer, Nicolas Sarkozy a donc entamé un numéro de claquette afin, semble-t-il, de ranimer le souvenir de Coluche avant le premier tour de l'élection présidentielle. Selon un proche du candidat, si la stratégie se révélait payante, Nicolas Sarkozy s'apprêterait prochainement à rendre un hommage à Georges Brassens en jouant en public du tambour avec ses parties génitales.
Voilà, je suis en train d'écouter l'émission, là, je viens d'entendre les propos de ce sudiste qui nous dit que les Noirs vont venir nous enculer, tous les bougnots, là, tout ça. Je vais être comme lui, alors. Je vais dire, ah ben putain, c'est bizarre, quand il y a un flic qui m'arrête, putain, pourquoi il a toujours l'accent du Sud? Pourquoi les gens qui se présentent, pourquoi les gros connards, ils ont toujours un accent du Sud? Ceci conclut, non? Allez. Continuez. Je vous aime. Gros bisous, c'était Seb de Guyane. Bisous.
Petite info chopée dans le Canard enchaîné du 14 mars. Alors, selon les chiffres publiés la semaine dernière par France Pub et l'IREP, Institut de Recherche et d'Études Publicitaires, les annonceurs ont dépensé la bagatelle de 32,5 milliards d'euros en 2006, soit une hausse de 2,1% par rapport à l'année précédente, ce qui a généré 11,6 milliards d'euros nets de recettes publicitaires dans les médias français. Dans le lot, les télés ont engrangé 3,4 milliards d'euros, c'est-à-dire plus 4,5%, les radios 807 millions, plus 1,5%, et les quotidiens nationaux 362 millions, c'est-à-dire plus 3,5%. Voilà, donc l'indépendance a encore de beaux jours devant elle. Et merci aux journalistes que vous êtes, Mermet et Taclic, et merde aux journaleux. Ciao.
Une confirmation qui nous vient du ministre des Chiffres lui-même, Jean-Louis Bourmou. Le chômage a encore baissé ce mois-ci. On enregistre en effet une chute de 376% des demandeurs d'emploi par rapport au mois dernier. Le chiffre officiel du chômage en France passe ainsi sous la barre fatidique du zéro et affiche moins 1,3%. Moins 1,3% de chômage, c'est peu, c'est même moins que pas du tout. Ce chiffre extraordinaire est un succès considérable de ma politique, de mes chiffres, a déclaré Jean-Louis Bourmou avec son large sourire. Madame Laurence Parisot, patronne du MEDEF et patronne de l'Institut de sondage IFOP, qui fabrique les intentions de vote des Français en cette période préélectorale, a aussitôt rendu un vibrant hommage au ministre Bourmou pour, je cite, « son éminente faculté d'inventer des chiffres historiques ».
Oui, salut Daniel, Maurice de La Roche-sur-Yon. Voilà, je viens d'entendre De Villiers chez De Morand, là, et moi je suis vendéen, tu vois, par hasard. J'en tire pas de fierté, pas de rancœur non plus. Enfin, c'est une chose, c'est que je veux pas être récupéré par cet individu, moi. Il prétend que la Vendée est son laboratoire d'essai. Ouais, d'accord. Mon cher Vicomte, tu ne me représentes pas. Et je t'emmerde. Allez, salut Daniel, continue.
Oui, bonjour Daniel, merci pour tes émissions. Au sujet des divers reportages sur la Chine, très très instructifs, très intéressants. Malheureusement, il y a un sujet qui n'a pas pu être abordé, ou ça aurait été peut-être très difficile pour toi de l'aborder, c'est sur les camps de rééducation en Chine. Et bon, ça se visite. Il y a des chefs d'entreprise européens qui ont pu les visiter, et le gouvernement chinois ne demande qu'une chose, c'est d'investir dans ces camps. Bon, à défaut d'en parler ou d'avoir pu en visiter un, ben peut-être que une autre émission là-dessus, sur ceux qui ont vécu dans les camps de rééducation pendant 20 ans, voire 30 ans, mais ils peuvent être contactés. Et je pense que ça nous permettrait de voir encore actuellement le vrai visage de la Chine actuelle, la Chine dite populaire, dite sociale. Voilà, c'est C'est Pierre, je pourrais t'en dire plus. À bientôt.
Eh ben, les camps de travail ou le travail forcé dans les prisons en Chine, on va en parler. Ça, ce sera demain. Et aujourd'hui, eh ben, on parle de la France de demain. La France de demain risque de ressembler à la Chine d'aujourd'hui. Eh oui, 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 si tout va bien, c'est-à-dire que si effectivement vous acceptez, bande de Français, de travailler plus pour gagner plus, si enfin vous sortez de l'archaïsme, enfin de tout ce qui fait que notre pays décline, eh bien, ça pourra peut-être ressembler à la Chine, c'est-à-dire avec cette croissance, ce chiffre de croissance formidable. Française, français, encore un effort pour être chinois, c'est peut-être au fond ce que veulent nous dire les patrons français que nous allons rencontrer aujourd'hui dans la base où j'y suis, en Chine. Et oui, on a rencontré avec Give des de ces patrons français qui prospèrent et sont heureux dans ce pays. Ou le pays où la vie ne vaut pas cher. Voilà notre thème d'aujourd'hui. On ira un petit peu quand même du côté des Chinois qui résistent. Il y en a, et il y en a pas mal. Voilà, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, la base. J'y suis. Je voudrais faire une remarque après l'écoute de l'émission où Alimi a longuement dit sur les écrivains socialiste. Je pense qu'il y a un abus de langage lorsqu'on dit toujours la gauche, la gauche, la gauche. En l'occurrence, là, il s'agit de la gauche socialiste. C'est elle qui a eu, c'est elle qui exerçait le leadership. Et on voit bien d'ailleurs avec les explications portées que c'est elle qui a la responsabilité des virages et des renoncements en quelque sorte. Voilà. Comme si que la gauche, non, c'est la gauche socialiste. La gauche en France, est, tant mieux, elle est plus réelle, elle est pluraliste. En tout cas, il n'y a pas qu'une chapelle, même s'il y a une grosse église. Voilà, merci.
Vendredi 6 avril, à 19h, on se retrouve comme d'hab chez Léa à 19h. Et à 20h, nous ferons une petite place au collectif qui se réunit en ce moment, qui squatte aussi le petit clasé. Pour la campagne de Beauvais. Allez, salut.
La situation des sans-papiers devient de plus en plus préoccupante. C'est pourquoi le Repère de Limoges a décidé d'inviter des représentants du collectif des sans-papiers et de Réseau d'éducation sans frontières à venir débattre du problème avec tous les AMG du coin. Il y aura projection de 2 films, le 3 minutes réalisé par un collectif de cinéastes pour Réseau d'éducation sans frontières, laissez-les grandir ici, et celui sur la lutte des sans-papiers de Limoges pendant l'été 2006. C'est mercredi 4 avril à partir de 18h30 au Woodstock Boogie Bar, 18 avenue Mongeauville, Limoges.
Le comité de vigilance du CHER pour la défense du droit des étrangers présente à l'école des Beaux-Arts de Bourges du 5 au 7 avril l'exposition « Ceci n'est pas une prison » et le film « L'exil ». L'exposition photographique « Ceci n'est pas une prison » est une exposition sur les centres de rétention et le vernissage aura lieu le 5 avril 2007 à la cafétéria de l'école des Beaux-Arts, 7 rue Édouard Branly, à 18h. Le film de Pierre Cormand « L'exil » présente l'histoire de la famille Rabat, une famille kosovare expulsée dans des conditions particulièrement étranges et inhabituelles. Le film dure 46 minutes. La diffusion aura lieu le 12 avril à 19h à l'amphithéâtre de l'École des Beaux-Arts de Fr. Édouard Branly et sera suivi d'un débat avec Pierre Cormand et Damien Nant de la CIMAD. Bonne journée. Au revoir.
Vos émissions sur la Chine sont absolument fabuleuses. Fabuleuses. Pourvu que beaucoup, beaucoup de monde écoute. Et bravo, c'est vraiment génial. Enfin.
Des fois, je travaille toute la journée du matin jusqu'à la nuit.
Mais je dis souvent, ce qui a fait la richesse de la Chine aujourd'hui, c'est tous ces petits ouvriers qui ont travaillé durement et qui ont enrichi leur pays.
C'est-à-dire qu'on a une usine où les gens chez nous travaillent aujourd'hui 212 jours par an, 8 heures par jour.
Alors qu'ici ?
Ici, on travaille 330 jours par an et 8 heures par jour. Pour 5-6 fois moins cher.
Si la Chine est là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces petits ouvriers.
À partir de 5h du matin. Jusqu'à 10h le soir. Je suis disponible pour bosser.
Et combien de jours par semaine?
Non, il n'y a pas de jour de repos.
Le modèle chinois est un modèle économique pragmatique. Tout est fait pour favoriser le développement des entreprises. Parce que si on veut avoir des œufs, il faut soigner la poule. Hein, et non pas la couper en morceaux comme on est en train de le faire en France.
Là-bas, c'est Jésus, France Inter.
C'est Daniel Mermet, c'est la Massue, j'y suis avec Guy Vanctil, grâce à tous ces petits ouvriers.
Flight number 2. Arrive.
L'ouvrier chinois volontaire. L'ouvrier chinois a envie de travailler. Mais ici, si on décide que, par suite d'une augmentation du carnet de commandes, on va passer à 2 heures supplémentaires par jour, c'est accueilli avec plaisir, hein, avec plaisir. Et mon problème est plutôt de tenter de limiter les heures supplémentaires que de les demander. C'est-à-dire que eux vont systématiquement essayer de faire des heures supplémentaires.
Ça me fait penser à la phrase de Nicolas Sarkozy, qui veut gagner plus, travaille plus.
Oui, bah oui. Ça ici, c'est ça à 150%. Vous avez des ouvriers qui non seulement vont faire leurs 12 heures de travail ou normalement leurs 8 heures de travail par jour, mais vont refaire encore 4 heures de travail quand ils vont rentrer dans leur famille à tenir une boutique le soir. Tout le monde comprend ici que le développement doit passer par d'abord le développement économique des entreprises.
Et ben voilà ce qui nous attend. La France de demain, c'est la Chine. Travailler plus pour gagner plus. Comment expliquer autrement cette fabuleuse croissance chinoise qui en fait baver plus loin? Le monsieur que vous avez entendu, ne croyez pas que c'est rue des entrepreneurs. C'est le boulevard des entrepreneurs. C'est l'autoroute des entrepreneurs. C'est le paradis des entrepreneurs. C'est la Chine. Encore que, aujourd'hui on va rencontrer des patrons français, c'est pas tous qui réussissent tout à fait. Je vous signale un livre très intéressant de Jean-Marc et Idir Plantade, le bien nommé, qui s'appelle « La face cachée de la Chine » et qui raconte justement des Plantades, toute la vérité sur la plus grande jungle économique du monde, la plus grande jungle économique du monde. Évidemment, aujourd'hui, pas un jour sans la Chine. Le monde entier est à l'heure chinoise. Hommes d'affaires, politiques, journaleux chantent sur tous les tons la formidable machine à croissance chinoise. La Chine, première puissance économique du 21e siècle. Et peu à peu s'installe en Occident la certitude que l'empire du milieu est un Eldorado doublé d'une terre promise. Eh ben, oui, sauf pour les petits ouvriers, c'est-à-dire ceux avec la sueur desquels et sur le dos desquels se fabrique ce miracle, et puis aussi quand même des entrepreneurs et des investisseurs qui commencent à en rabattre gentiment, notamment les entrepreneurs français. Faut-il vraiment délocaliser? Fallait-il vraiment démolir complètement le tissu industriel, économique français, avec tout ce que nous savons, pour un tel horizon, même si ce n'est pas le seul? C'est pas seulement en Chine qu'on a délocalisé, mais enfin, il y a quand même 800 entreprises françaises qui sont présentes en Chine, des petites, des moyennes et des très grosses. On va voir un petit peu dans quel climat, dans quel esprit tout cela se passe. Et puis, on rencontrera ces Chinois qui sont conscients de tout ça, notamment le docteur Liu Keiming, qui est déjà intervenu dans l'émission, directeur de l'Institut d'Observation Contemporaine, et qui nous dira un petit peu comment il voit les choses, comment ça se passe pour ces petits ouvriers, c'est jusqu'à 16h. C'est la Bassi-Chine. Suis.
Nous sommes tout au sud de la Chine, pas très loin de Hong Kong. Un endroit complètement désert il y a quelques mois et qui est en train de devenir une petite ville française, grâce à cet homme. Joël Pujol s'est installé il y a une dizaine d'années à Canton. Son métier, aider les entreprises à s'implanter en Chine. Il vient de créer ici son propre parc d'entreprises où il s'occupe de tout. Au patron français qu'il appelle, il propose de se charger des formalités, du recrutement, de la formation et même de la construction de l'usine, comme cet échafaudage en bambou qui va accueillir une PME française.
Ça sera prêt dans un an, dans deux ans?
Cette usine-là sera prête dans deux mois.
Voici la prochaine usine, on y produira des plastiques et du textile, et tout autour des terrains vagues où l'on attend les PME françaises.
Eh bien oui, il fuit cette France archaïque, cette France hostile à l'entreprise avec la lourdeur de ses règlements, de ses chars, de ses syndicats et surtout de ses 35 heures. Ce seront ces patrons français qui s'installent ailleurs et notamment en Chine. Vous avez compris ce petit document que nous vous avons fait entendre présente Joël Pujol. C'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que Joël Pujol s'est installé a installé aussi ce parc industriel de Xiaoland et il est l'initiateur de ce projet et il est incubateur. Incubateur, ça veut dire que il facilite. On avait rencontré, souvenez-vous, un facilitateur. Lui, il était chinois et il était là pour permettre aux entreprises françaises de s'installer en Chine. Toutes les, parce qu'il y a quand même quelques règles, pas beaucoup. Enfin, il y en a quelques-unes. Puis, faut faire attention quand on arrive dans des lieux sauvages, le capitalisme sauvage, la sauvagerie. Ben, il faut s'en défendre et il faut s'en méfier. Et c'est une des activités de Joël Pujol qui est là donc pour accueillir les PME qui cherchent à s'installer, qui veulent s'installer. Et dans ce parc industriel, il y a une pépinière d'entreprises, 18 entreprises qui sont rassemblées et dont nous parle avec talent Joël Pujol.
Joël Pujol, déjà un petit mot pour décrire où on est. On arrive chez vous, tout d'un coup on passe une première grille, une deuxième grille, une troisième grille avec des gardiens en uniforme et un petit macaron qui dit Global Village. Et on est dans un endroit avec des tours, mais pas des tours de HLM, quoi, des tours grand luxe, marbre et boiseries apparentes, un jardin extraordinaire au milieu. Ça ressemble à ce qu'aux États-Unis on appelle les gated communities, c'est-à-dire ces endroits fermés pour privilégier, en gros.
C'est un peu comme ça en Chine, mais c'est parce que c'est pas n'importe qui non plus qui habite ici.
C'est pas des prolos.
Non, pas vraiment. Si vous voulez, c'est toute l'habitude. La Chine n'est pas très belle aujourd'hui. On est dans une zone industrielle, donc derrière et dehors, vous l'avez vu, hein, vous avez pris les autoroutes très embouteillées, il y a beaucoup de pollution. Et le seul espace qu'ont les Chinois à un moment ou un autre de voir du beau, c'est de fermer un cercle d'immeubles et puis à l'intérieur de cet immeuble, ils créent des jardins. Le jardin que vous avez devant vous, il a été comme ça alors que les immeubles n'était même pas encore fini d'être construit. Donc ça veut dire que quand vous venez ici, vous avez remarqué, il y a cette petite rivière, des petites cascades, des chutes d'eau, il y a 200 ou 300 essences d'arbres, des pelouses, des petits poissons un peu partout. Bon, c'est un peu magique, mais c'est le moment où ben, vous vous relaxez et vous pouvez arrêter dans la furie de ce monde lancé à 200 à l'heure.
Alors qu'est-ce que vous faites le reste du temps quand vous n'êtes pas arrêté dans votre intérieur en marbre et en boiserie ?
Eh ben, disons que cet intérieur-là, il profite à ma femme puisque moi j'y suis jamais, j'ai jamais le temps d'y être parce que la Chine c'est 7 jours sur 7, c'est pas 24 heures sur 24, les autres sont à 24 heures sur 24, pas moi, je reste encore français, mais on est bien occupé une dizaine d'heures par jour et tous les jours de la semaine. Et même le dimanche où on pourrait se dire on va se reposer, ben non, le dimanche on continue et on essaye d'établir ce qu'on appelle le guangxi, c'est-à-dire des réseaux relationnels qui font que votre entreprise, elle va pouvoir continuer, elle va pouvoir se développer et que vous allez trouver des supports, des gens qui sont dans les administrations, dans le gouvernement ou dans des clients potentiels capables de vous aider. Alors la nouvelle mode aujourd'hui en Chine, c'est le golf, donc les gens vont golfer. Je suis nul au golf, donc l'affaire est réglée, mais ça m'empêche pas de les accompagner quelque part parce que c'est vraiment là que ça se fait.
Ah ouais ?
Le business se fait là parce que tous les grands capitaines d'industrie, tous les administrateurs vont toujours, c'est toujours ça participe de la même idée, c'est essayer de retrouver un moment dans le rush où on peut être ludique, se reposer un petit peu et travailler quand même. Hein, parce que le Chinois, il sait pas s'arrêter de travailler.
Ouais. Votre métier, vous le définissez comment d'ailleurs ? Incubateur d'entreprise ?
Ouais, moi, je suis un incubateur, c'est-à-dire qu'un coach d'entreprise. À un moment ou à un autre, j'ai choisi mon camp. Moi, je suis français. Et je suis là pour aider les PME françaises à s'implanter. Et pour ça, je vais négocier comme un chien les meilleures possibilités d'implantation face aux autorités, aux administrations chinoises. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « J'ai mis un an à savoir dessiner un cheval en 5 minutes ». Ben, c'est ça que je fais. Mon métier, c'est mettre 6 mois pour apprendre aux usines à fabriquer. Et au bout de ces 6 mois, on appuie sur le bouton et là, il n'y a plus de fin.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ? On fait les gouttières. Et combien on gagne quand on fait ce travail-là ?
C'est entre un peu plus de 1000 kuai et puis jusqu'à 2000 à peu près.
Entre 100 et 200 euros. Quoi.
Entre 100 et 200 euros. Et c'est bien payé, ça ?
Pour droit.
Non, c'est pas beaucoup.
Vous vivez dans les baraques, là-bas ? Vous dormez dans les baraques ?
Ouais,
c'est dans des dortoirs.
D'accord.
Ouais, c'est comme à l'armée.
Alors, qu'est-ce que vous espérez?
Ouais, bah, bien sûr qu'on va faire fortune.
Et toi, de quoi tu rêves?
Moi,
j'ai envie de rentrer chez moi, voir ma femme et mes enfants.
Et ils sont loin?
Moi, je viens du Renan.
Mais ça, c'est loin, le Renan.
Ouais, c'est vraiment loin.
1,4 milliard, 1,5 milliard de Chinois. Le chiffre varie, les chiffres varient énormément concernant la Chine, tant il est difficile de produire des chiffres dans un pays comme celui-là. L'État ayant le monopole de la production de ces chiffres. Alors on n'est pas à 200 millions près concernant le nombre de Chinois. Pas plus qu'on est à quelques dizaines de millions près concernant les Chinois qui ont les moyens de consommer en Chine. On estime cependant entre 150 et 250 millions de Chinois, ceux qui ont un niveau de vie semblable aux Européens. Voilà, ça c'est un marché et c'est une. Mais les autres, si c'est 1,4 milliard, alors on compte quelques dizaines de millions de très riches, voilà. 200 millions, ceux qui ont les moyens, le niveau de vie des Européens, et puis tous les autres. Et puis parmi ces tous les autres, une énorme masse qui ressemble à ceux que vous venez d'entendre, qui sont des Mingongs, c'est-à-dire ces travailleurs migrants venant de leur campagne, venant des zones rurales. Je rappelle que 65% de la Chine reste rurale et qui constituent ces petits ouvriers, comme dit la dame française, enchantée par ces petits ouvriers qui font tout le boulot. Alors on est avec Joël Pujol, entrepreneur français, incubateur, qui est là pour faciliter l'implantation des entreprises françaises. Ça peut vous intéresser.
Aujourd'hui, on peut pas faire de business dans ce pays si quelque part on n'est pas aussi membre du PC. C'est pas pour rien que de plus en plus le PC, qui était ouvert simplement à des administrations, laisse aujourd'hui rentrer des hommes d'affaires. Hein. C'est-à-dire, c'est l'économie de marché qui est extrêmement bien installée. Il n'y a pas plus capitaliste aujourd'hui en Chine qu'un Chinois.
Et ça, c'est complètement schizo d'une certaine manière.
Schizo ou pas, c'est de la façon dont le monde marche. Donc, on peut pas y échapper. Mais ça marche et ça marche remarquablement bien.
Parce que le Parti communiste chinois est un gage de stabilité. Et ce qui dit stabilité dit bon pour les affaires.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, pour vous parler de stabilité, par exemple, c'est moi, je suis arrivé en 92. 92, un ouvrier se négociait aux alentours de mémoire de 60 euros. Bon.
Maintenant, il vous coûte combien l'ouvrier ?
Bah, un ouvrier non formé, hein, coûte d'entre 90 et 110 euros. Ben, ça coûte de plus en plus cher, mais...
Non, mais un exemple aussi, parce que vous parliez d'ailleurs combien coûte un ouvrier ici. Ouais. Un ouvrier français, ça vaut combien d'ouvriers chinois?
Écoutez, je suis parti, ça fait 17 ans de France. À combien est l'ouvrier français aujourd'hui?
Disons 1100 euros, quoi.
Ben voilà, c'est 10 fois moins. Hein. Un ouvrier non qualifié, c'est 10 fois moins.
Il demande pas plus, l'ouvrier, à force, parce que le...
Non. Malheureusement, je veux dire, même s'il demande plus, on va dire que... La force de la Chine, quelque part, c'est d'être capable de mettre 20 000 bonhommes demain matin sur un chantier. Bon, ça veut dire que tous ces gens qui viennent sur la bande côtière, et je vous rappelle que la bande côtière, c'est rien par rapport au reste, au réservoir humain qu'il y a dans le reste de la Chine.
Des régions comme le Henan, où on est passé, où il y a 100 millions d'habitants.
Oui, ou dans le Guangxi, pauvre. Ou dans le Sichuan, ou dans la montagne. Vous voyez, ça arrive sans arrêt en ville. Si vous allez dans les gares, vous allez voir ce flux migratoire infernal. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on met un petit panneau feuille A4 sur le poteau d'entrée du parc européen et vous avez 200 ouvriers dans la journée. On trouve des ouvriers sans aucune difficulté. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des migrants. Hein, donc vous en avez beaucoup parlé dans la presse. Et les migrants n'ont pas nécessairement les mêmes droits que les autres.
Ils n'ont pas droit, ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas accès à l'éducation.
Alors, dans certaines entreprises, je veux dire que dans les entreprises que je gère notamment et plus largement dans les entreprises françaises, on joue pas à ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas Zola, on n'est pas des exploiteurs non plus. On est venu pour conquérir un marché, mais dans la dignité. Alors donc pas d'enfants et puis ben, payons des cotisations sociales aux employés. Alors c'est assez amusant parce que. Je suis pas non plus un mécène.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous êtes une ONG, là.
Ben, voilà, je vous explique. Je suis pas un mécène, parce que pour 100 balles de plus, enfin 10 euros, 20 euros de plus ou de moins, c'est une bêtise. Charge sociale, si on parle de Sierlan, 10% charge sociale pour l'employeur, 10% pour l'employé. Bon, si vous avez un salaire de...
Mais c'est quand même vachement moins qu'en France, hein.
Ben, oui, forcément. Il n'y a pas photo.
Ça, c'est le grand stade, hein?
Ce sera le grand stade.
Ah, c'est pas mal quand même, hein? On est dans le chantier du site des Jeux Olympiques de Pékin 2008.
Des fois, je travaille toute la journée du matin jusqu'à la nuit. À partir de 5h du matin. Jusqu'à 10h le soir. Je suis disponible pour bosser.
Et combien de jours par semaine?
Non, il n'y a pas de jour de repos. Tous les jours de la semaine.
Ah oui, quand ils veulent te faire travailler.
Ouais, c'est ça. Le patron me dit que je travaille tant.
Aujourd'hui, les ouvriers chinois, si vous leur faites pas faire des heures supplémentaires, ils s'en vont. C'est eux-mêmes qui vous les réclament. Alors, quelque part, je voudrais pas être polémique, mais est-ce que on a le droit de dire aux gens, bah arrêtez de travailler, non, vous gagnerez pas plus que ça. Laissez-les bosser s'ils ont envie de bosser.
Pour résumer, en fait, ce qui se passe en Chine, pour vous et pour les autres entrepreneurs, c'est un modèle de capitalisme vertueux.
Le capitalisme est-il ou n'est-il pas vertueux? Je veux dire qu'aujourd'hui, nous, on respecte la loi, donc en ce sens, on est effectivement vertueux. Il n'y a pas de petits enfants qui travaillent chez nous, donc dans ce sens, on est aussi vertueux. On essaye de travailler avec nos ouvriers et pas contre nos ouvriers, donc ça aussi, c'est vertueux. Mais on est aussi des entreprises capitalistiques à la conquête de la Chine, et ben, là aussi, il faut être vicieux hein, de temps en temps pour réussir dans le business, parce que le capitalisme, je veux dire, aujourd'hui, il y a pas plus capitaliste qu'un Chinois. Hein. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas vertueux, mais on sait faire du business proprement dans ce pays. Voilà.
Alors, est-ce que ça va durer longtemps, cet Eldorado chinois? Eh ben, là, il y a eu une grosse inquiétude récemment. Le 16 mars 2007, le Parlement chinois a signé la fin des privilèges fiscaux pour les entreprises étrangères, nombreuses et majoritaires en Chine. Majoritaires en Chine, c'est-à-dire que le miracle chinois, le boom chinois, rapporte d'abord aux étrangers, aux investisseurs étrangers aussi, ces horribles Chinois, vont-ils imposer une fiscalité de 25% d'impôts sur les sociétés? Jusqu'alors, les sociétés étrangères payent en moyenne 15% d'impôts, alors que le taux de droit commun appliqué aux entreprises chinoises est de 30%. Alors, c'était pas juste. Et les entreprises étrangères vont voir leur taux d'impôt remonter un petit peu. Est-ce que ça va pour autant calmer le jeu? Vous savez que officiellement, le gouvernement central veut de la décroissance. C'est un vœu pieux, mais enfin, c'est quand même un vœu, et c'est pas si fréquent que des chefs d'État, des premiers ministres proclament ainsi la décroissance. Alors là, on est à Shenzhen, donc on n'est pas loin de ce parc, j'allais dire d'attractions, non, ce parc industriel européen. Et avec, nous sommes avec le docteur Liu Keiming, on l'a déjà rencontré dans cette émission. Il est un ancien journaliste, il est docteur en littérature et surtout il est directeur de l'Institut d'observation contemporaine qui essaye, tant bien que mal, qui réussit avec une certaine efficacité, tout simplement de défendre un peu, vous avez vu, le droit du travail, les relations dans l'entreprise, le développement harmonieux de la société, de l'économie, etc., etc. Et qui connaît bien cette société chinoise, surtout les sociétés chinoises et étrangères, et la façon dont les choses se passent à l'intérieur de ce petit monde de l'entreprise en Chine. Liu Kaiming.
那么他们现在虽然深圳主要都是这些外来工，他们工作在所有的领域，是这个城市的主要财富的创造者，税收的主要的创造者。
Donc maintenant dans la ville de Shenzhen, la plupart des habitants ils sont des gens de l'extérieur, des Mingong, et c'est eux qui a créé la plupart de la fortune de cette ville.
在这里完全没有任何的政治权利，没有任何的民主权利，全是让政府能够关注他们，所以他们的工资非常低，他们的孩子不能上学。
没有, 有 au contraire, ces Mingong, ils n'ont pas du tout de bien-être, ils n'ont pas du tout de pouvoir politique, ils n'ont pas du tout des associations, des syndicats pour se défendre. Leurs conditions de travail, de vie, c'est très mauvaise.
所以这个城市的政府和这个城市的企业可以非常迅速地积累它的资本。所以在深圳在过去27年，它的平均增长率，经济增长率是28.7%。
Donc, c'est pourquoi les sociétés, les usines de cette ville ont pu s'enrichir très très rapidement en très peu de temps. Et le taux de croissance de l'économie de cette ville depuis une vingtaine d'années, c'est en moyenne 28,7%.
Donc c'est une, vous voulez dire par là que c'est une ville très riche.
Oui, c'est la plus riche de Chine.
C'est la plus riche de Chine.
但是在政府的财政预算中，在政府每年599亿的财政预算中，没有一分钱是给农民工的孩子的，给农民工的医疗的，农民工的教育的。
Mais parmi le budget du gouvernement annuel, c'est-à-dire 59,9 milliards RMB, rien n'est pour les travailleurs.
所以他们的生活呢就非常的困难.
Donc leur vie c'est dur.
Voyons d'un peu plus près maintenant, si vous voulez bien nous donner des précisions quand même sur les conditions de travail des Mingong.
总体上来说，现在我们很多的工厂的工人。 每个月一般能休息一天已经很不错了。
Donc en général, les ouvriers qui travaillent dans des usines, ils ont un jour de vacances par mois, c'est déjà pas mal.
然后呢，每个月一般挣工资是600到800，是最多。
Leur salaire mensuel, c'est entre 600 à 800 yuan.
C'est-à-dire entre 60 et 80 euros mensuels. Pour combien d'heures?
每天工作12个小时以上。
12 heures par jour.
12 heures par jour. 60 à 80 euros par mois et un jour de congé par mois. Des vacances?
Seulement pour la fête du Nouvel An chinois, c'est-à-dire la fête du printemps. Mais pendant ces vacances, ils ne sont pas payés.
Il n'y a pas de congé payé.
Meilleur.
La santé, les conditions de santé maintenant, la sécurité sociale.
Non, ils n'ont rien.
Si ces ouvriers sont malades, eux ou leurs enfants ou leur famille, qu'est-ce qui les prend en charge?
Personne ne paye. Rien pour le peuple. Surtout les Mingong.
Mais je voudrais que vous me parliez aussi du travail des enfants. Vous avez pu observer, constater du travail d'enfants dans ces entreprises ici.
Oui, c'est ça.
La loi chinoise, les ouvriers enfants moins de 16 ans, c'est illégal.
你知道中国的小这个中学和小学辍学率是将近百分之十，是九多一点。
Donc en Chine, 10% des enfants finissent pas leurs études de collège, de l'école primaire.
La scolarité de base, c'est 9 ans en Chine.
九年教育，哎，9年。 这样的话，他们都要出来工作。 然后呢，另外一个我们中国完成基础教育，就是九年毕业的时候，一般是15岁到16岁就毕业。
Dans ce cas, ils sortent pour travailler, pour chercher du travail à partir de 15-16 ans.
那么 80% 的农村的孩子 是初中毕业后就不会再继续上学了。
Et 80% des enfants qui ont déjà fini leurs études des 9 ans d'éducation de base, ils continuent pas.
因为现在呢，因为劳工厂工人短缺非常严重。
Parce que ici dans les usines en Chine, les main d'œuvre manque.
再一个呢，中国做一个假身份证是非常容易的。
En plus, en Chine, c'est très facile de faire une fausse carte d'identité.
所以呢 ,16 岁以下进工厂的工人非常多。
Donc, y a beaucoup, beaucoup d'enfants, moins de 16 ans, qui peuvent entrer dans des usines pour travailler.
Quand on dit enfant, c'est quel âge?
一般是13岁到 10.
De 13 ans à 16 ans, moins de 16 ans.
Et quel est le pourcentage d'enfants dans les entreprises chinoises?
5%, 600 000.
5%. Ça fait 6 millions.
对对
对。Ça fait quand même 6 millions.
政府也承认这种事，都承认有存在的问题。
Donc ce chiffre est déjà reconnu par le gouvernement.
Ah, c'est le chiffre que reconnaît le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font contre ça?
那他们之后呢？他们做什么？
他声称要做很多工作，但实际上他需要，刚才说了，他需要依靠地方官员做，地方官员不做。
Ça veut dire le gouvernement central.
Ouais. 在中国
il a promis on va changer tout ça, mais
c'est inacceptable.
Ouais, mais après c'est les officiers locaux qui vont réaliser.Mais ils ne font pas ça.
Ils ne le font pas. C'est eux qui doivent le faire, c'est eux qui doivent appliquer, mais ils ne le font pas.
在中国永远是这样说的跟做的是不一样的。
嗯哼。
对不对？政府说他代表工人阶级，他保护工人的利益，但是实际上他不并不眷恋。
On déclare comme ça, et on fait autrement.
Alors Jacques Jumeau.On vous retrouve ici à Gaoming, parce que vous êtes un des entrepreneurs français qui est là depuis le plus longtemps dans la région de Canton.
Une dizaine d'années, oui, effectivement, une dizaine d'années. La société JPCI Control, actuellement, c'est une société qui fabrique des composants électromécaniques destinés à des applications en électroménager, dans les biens d'équipement.
Votre boîte, à l'origine, elle était basée en France ?
Oui, la société JPC existe en France depuis 1975 et est toujours présente sur les marchés français, fabrique toujours en France. Mais progressivement, au cours des années, nous avons perdu tous les marchés électroménagers, tous les marchés de grande série.
Toutes les usines d'électroménagers.
Oui, c'est-à-dire que mes clients principaux en France ont disparu aussi, sont délocalisés.
Donc pour vous, c'est un modèle de délocalisation réussi ?
Délocalisation ? Non. Augmentation de nos performances à l'export, je dirais plutôt. C'est un tabou, on ne peut pas parler de délocalisation.
Ça, c'est rien, c'est la dame du café qui est en train de renverser une bouteille.
Non, il y avait des années qu'il ne nous était plus possible de vendre à l'export. Et d'autre part, notre clientèle française disparaissait. Je suis arrivé ici en se disant, si j'y arrive pas, je crève. La société JPC disparaît.
C'était où votre usine ?
Toujours implantée en Seine-et-Marne. Actuellement, c'est 30 personnes.
Vous avez combien de salariés ici ?
Environ 300. C'est pas beaucoup, hein ? Pour les entreprises locales, c'est une toute petite PME. Mon voisin fait 50 000 salariés. Il fabrique des chemises en coton.
Et oui, voilà. Toute petite entreprise française, effectivement, avec seulement 300 salariés. Vous avez entendu, le voisin, 50 000. Voilà. La chemise que vous portez, que je porte, elle vient peut-être de là. Il y a pas mal de chances. C'est marrant d'enlever dans une maison tout ce qui est fabriqué en Chine. Il y aurait beaucoup de choses qui disparaîtraient et pas mal de nous se retrouveraient plus ou moins à poil. Et oui, mais oui, mais oui, c'est ça l'atelier du monde. Et c'est ça les Français, c'est les entrepreneurs français qui se sont installés là-bas et qui sont assez contents.
Vu de la Chine, ce qui se passe actuellement en France, je comprends que Bush ait dit la vieille France, hein, ou la vieille Europe. Je comprends. Pour moi, c'est un pays qui n'a plus de motivation, où les gens sont déjà découragés avant de commencer de faire quelque chose. Le rêve chinois, c'est un petit peu le rêve américain. C'est-à-dire que le développement actuel est tellement important...Croissance, c'est tellement important.
Croissance à deux chiffres.
Il y a la possibilité, l'espoir pour tout le monde de se développer, de se mettre à son compte, de créer sa propre société ou son propre commerce. Et on n'est pas ici en train de transformer les entreprises en sécurité sociale bis. Je pense qu'en France, on a perdu de vue quelle était la logique d'une entreprise. L'objet social d'une entreprise, ce n'est pas de se substituer à l'État. Une entreprise, c'est d'abord réaliser des bénéfices.Malheureusement, ce qui est arrivé, ce qu'on a vu arriver en France au cours des 15 dernières années, progressivement, sont des liens, des menottes, je dirais, on en est peut-être maintenant au barreau sur la porte pour le chef d'entreprise. Mais je pense qu'on a été un petit peu trop loin. Ça me dérange. Juste ici, ça, quand je vois les capacités qui se perdent et pour lesquelles il y a des marchés tellement intéressants, importants ici. Il y a des jours, je suis un petit peu désespéré de voir que rien ne bouge.
Il y a un côté Far West ici quand même, mais c'est le Far Est.
Oui, c'est un côté Far West. C'est-à-dire que il y a tellement de choses qui sont à faire, tellement de choses à créer, à développer. C'est ouvert, c'est un marché ouvert. Et il faut être ici à l'affût de voir ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que le fait d'y être permet de voir des opportunités tous les jours.
Qu'est-ce que vous pouvez faire ici que vous pouvez pas faire en France pour mener votre boîte?
Ce que je vais faire tout de suite, c'est aller aux toilettes.
10,7% l'an dernier, il faut souligner que c'est la croissance la plus forte depuis 11 ans, avec un produit intérieur brut qui atteint les 2688 milliards de dollars. Forcément, à ce rythme-là, la Chine, quatrième économie de la planète, grimpe au palmarès des pays les plus performants. Elle pourrait même ravir à l'Allemagne sa troisième place des 2008.
Beaucoup d'ouvriers qui sont immigrés, qui viennent des régions pauvres du centre de la Chine.
Et ça, c'est une majorité des ouvriers qu'on retrouve dans les usines, dans le coin.
Oui, bien
c'est-à-dire
sûr.
C'est ce qu'on appelle les Mingong, quoi, les migrants.
Oui, parce que, bien entendu, la demande en main-d'œuvre est tellement importante dans ces zones côtières où nous sommes, là, que c'est un petit peu comme quand on faisait venir les Auvergnats à Paris.
C'est Bécassine qui vient de sa Bretagne.
Exactement, c'est la même chose qui se passe ici. C'est quelques années de labeur qu'ils souhaitent intensif ici, de manière à gagner le maximum d'argent pour rentrer chez eux. Ils en veulent, oui, ils en veulent.
Vous êtes des travailleurs, vous vous déplacez au fur et à mesure des chantiers, c'est ça ? C'est-à-dire, vous vous déplacez à chaque fois qu'il y a un nouveau chantier, vous allez sur les nouveaux chantiers. Les femmes aussi travaillent sur le chantier.
Les hommes, ils travaillent dans le chantier et les femmes, ils travaillent dans les usines.
Vous travaillez dans une usine ? Tu fais de la confection? Vous aussi?
Elle travaille ici.
Elle travaille ici sur le chantier? Qu'est-ce que vous faites sur le chantier?
Des petits boulots, par exemple, porter des briques pour les hommes.
C'est pas un petit boulot de porter des briques pour les hommes. Et toi qui travailles dans la confection, je vous tutoie parce que vous êtes plus jeune que moi, et je veux pas que les auditeurs soient étonnés de ce qu'on se tutoie. Toi, tu travailles dans la confection, tu travailles combien d'heures par jour dans la confection? 12 heures par jour.
La plupart des usines, on travaille 12 heures par
jour. Et qu'est-ce que tu couds comme vêtement?
Je vérifie la qualité des vêtements.
Ah, tu travailles tous les jours ou tu as un jour de repos dans la semaine?
Le dimanche, si je veux, j'ai envie de continuer à travailler, je travaille. Si je veux reposer, je peux me reposer.
D'accord, mais tu peux travailler plus pour gagner plus si tu veux. Et tu gagnes combien par mois?
En moyenne, 1000 yuan par mois.
1000 yuan, 100 euros par mois.
Pas 1000 yuan,
renminbi.
Voilà, ces travailleurs que nous avions rencontrés, souvenez-vous, à Xiling, le soir du Nouvel An chinois, la nuit du Nouvel An chinois. Chine, terre de contraste, hein, c'est très très contrasté entre ses patrons, là en l'occurrence des patrons français, et les travailleurs. Le point de vue de Jacques Vallat, un entrepreneur français, lui aussi implanté en Chine, ou plutôt c'est sa société Extruflex qui l'a implanté dans ce pays.
Ce qui est admirable en Chine, c'est que pour un pays communiste, dirigé par un parti communiste, un État extrêmement centralisé sur le plan des grandes décisions, avec une délocalisation au niveau des régions, et bien dans ce pays, c'est la loi du marché qui prime. C'est-à-dire que la loi du marché, elle joue aussi sur l'offre et la demande d'emploi. Et aujourd'hui, parce qu'on a une demande énorme de gens compétents, Le type compétent se fait payer plus cher et démissionne sans aucun problème.
Mais j'ai l'impression à vous entendre que la France est plus communiste que la Chine.
Alors ça, c'est une certitude. Hein. Mais c'est évident que c'est une certitude. C'est évident. On n'est pas communiste, mais c'est vrai qu'en France, on a un pays qui est arrivé à une extrême socialisation. Je veux dire que la liberté d'entreprendre existe, mais elle est tellement contrainte qu'à la sortie, elle n'existe plus. Le pouvoir de l'État est tel, l'État fonctionne quand même entre le budget de l'État, la sécu, etc. On est quand même à pas loin, je crois, pas dire ce titre, 60% du PIB français. Donc c'est colossal. C'est absolument énorme.
Justement, on n'a pas dit un mot sur les cotisations sociales, la sécu, ça, la retraite.
Ça, c'est probablement aujourd'hui un petit peu le bas qui blesse. C'est-à-dire que
un petit peu.
Oui, parce que il y a pas suffisamment de protection, je dirais, au niveau de l'ensemble de la population qui travaille pour l'avenir et pour leur pension. Mais le gouvernement chinois est en train de bouger par rapport à ça. Hein. Mais c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui en Chine. Dans ce capitalisme dit sauvage, dans cette grande liberté d'entreprendre, dans cette grande liberté de l'offre et de la demande du travail, donc dans un vrai régime capitaliste et libéral, il y a effectivement un côté social qui n'est pas encore tout à fait bien étoffé. Mais je pense que ça va venir tout doucement, et parce que les gens feront pression. Je veux dire que il faut leur laisser le temps d'avancer étape par étape. Hein. La propension française et européenne, c'est de dire ils sont en train de nous piquer nos emplois, il faut les mettre au même niveau que l'Europe, etc., etc. On a mis 19e et 20e siècle pour mettre tout ça au point. Bon, on peut laisser peut-être aux Chinois 20 ans pour arriver à notre niveau, pour mettre un système social en place, pour protéger leur population. Ce qu'ils feront, c'est inévitable.
Parole de patron français, mais qui, à 61 ans, n'oublie pas ce qu'il fut. Il fut à Nanterre, en 1968, un gauchiste, un situationniste, dit-il, un anarchiste. Et donc, il se souvient de tout cela, même s'il a beaucoup changé. Quelque chose qui pourrait peut-être activer cette exigence d'égalité, de justice sociale des Chinois pourrait être le travail d'une association comme celle que dirige Liu Kaiming. Ses conclusions.
Donc, je veux ajouter une chose. Aujourd'hui, pour défendre les droits, les intérêts des ouvriers, n'est pas seulement un travail de la Chine, c'est le travail du monde, parce qu'aujourd'hui, on est entré dans l'époque de la mondialisation.
那么我相信中国工人的命运跟法国工人命运也是紧密联系在一起的。
Donc, je suis sûr que le destin des ouvriers chinois est lié au destin des ouvriers français.
C'est l'international, c'est Karl Marx.
对，这是，但是在这个这一次 globalization 这个时候，资本家已经团结在一起了，但是我们工人，全世界工人是一盘散沙。
Mais à l'intérieur de cette internationale, ce sont les capitalistes qui se sont unis ensemble, pas les ouvriers.
资本家他们的钱越来越多，穷人、工人他的钱越来越少。
Donc les capitalistes ils ont de plus en plus d'argent et les ouvriers ils ont de moins en moins d'argent. Ils
ont... Ça c'est très important ce que vous dites là. La globalisation à travers les délocalisations ont appauvri une grande partie du pays, une grande partie de la classe populaire, avec une augmentation considérable de la précarité dans l'emploi. Mais on dit, il y a des délocalisations, les entreprises s'installent en Chine. Et à part ça, on se dit, bon, c'est vrai que après tout, c'est peut-être bien pour ces pays en développement, parce que ça apporte du travail à des gens très pauvres, très modestes, etc. Et ça leur permet peut-être d'augmenter, de voir leur niveau de vie augmenter. Or, ce que vous dites, et ce que nous constatons, c'est que cette histoire-là est fausse. C'est-à-dire que l'appauvrissement des travailleurs français et des classes populaires françaises n'enrichit pas et ne sort pas de la pauvreté la classe ouvrière de la Chine et de ces pays-là.
现在工人的工资跟他们十年前他们父母的工资是一样的。
Donc le salaire des ouvriers actuels aujourd'hui reste toujours les mêmes choses qu'il y a 10 ans.
C'est ça. Il n'y a pas d'amélioration. Il faut bien dire ça au monde. Il n'y a pas d'amélioration du sort des classes populaires en Chine. Il y a une amélioration considérable de quelques fortunes. Il y a la constitution d'une classe moyenne qui concerne peut-être 100 millions de Chinois. Mais pour le reste, la classe populaire chinoise, son sort ne s'améliore en rien.
中国我们有两亿人，每天的收入少于一美金。
En Chine, il existe encore 200 millions de Chinois qui gagnent moins de 1 dollar par jour.
我们有超过 6.5 亿的普通劳动者，没有养老保险，没有医疗保险，没有工伤保险，没有失业保险。
Oui, ni éducation, ni sécurité sociale, ni retraite pour 650 millions de Chinois.
Est-ce que c'est viable longtemps, ça?
很难说。那中国现在正处于一个非常关键的转型期，我们已经经历了28年的经济转型，现在开始进行社会和政治的转型。我相信未来10年是非常关键的，如果共产党不能够主动的从一个独裁的政权转向一个民主的政权，可能中国会非常的危险。
Depuis 28 ans, la Chine a passé la période de changement économique.Et maintenant, je pense que ces 10 ans, c'est une période très très importante pour la Chine, pour le gouvernement chinois. Si le gouvernement n'arrive pas à bien changer le système de politique, c'est très grave, c'est très dangereux, au cours de grands risques.
Merci à tous, merci à Liu Kaiming, Joël Pujol, Jacques Jumeau, Jacques Vallat, Jean-Luc Chira, Boris Duhamel, Bruno Biroli. Du Nouvel Obs, c'est Michael Stanke. Merci à nos traducteurs Yang Yang et Luc Richard. Et Claudine Lapersonne et Ronan Maé étaient à la technique. Aujourd'hui, Yan Chou, Kaiko, Yen Guyen ont réalisé cette émission montée par Raphaël Moutère, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Attend vos remarques, observations, etc., etc. Au répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Terre Servageant. Salut!